Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisines et de voisins. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'inverser. Aujourd'hui, on va regarder dans le rétroviseur de l'histoire de l'humanité, ou plus exactement, l'histoire d'une moitié silencieuse de l'humanité. Bonjour, Diane Ducret.
Bonjour.
Vous êtes normalienne, historienne. Vous publiez La chair interdite. C'est votre troisième livre sur les femmes. Les deux premiers, on s'en souvient, c'était sur les femmes de dictateurs qui avaient connu un gros succès. Pourquoi encore les femmes?
Pourquoi pas? J'ai eu envie de vraiment de continuer cette enquête que j'avais initiée avec Femmes de dictateurs sur les liens entre l'amour et le pouvoir et surtout la manière dont parfois certains hommes veulent dicter leurs lois aux femmes, aux sentiments, mais jusque dans leur corps, jusque dans leur chair. J'avais été frappée de remarquer que lorsque Hitler fréquentait Eva Braun et que celle-ci était indisposée et indisponible du coup pour l'amour, il l'envoyait à la pharmacie chercher une potion, un remède pour lui faire passer son indisposition et qu'elle puisse se donner librement quand lui le désirait. Et je trouvais dans cette anecdote quelque chose de véritablement très très puissant sur les liens qui existent entre le corps de la femme et le désir de l'homme. Et j'ai eu envie de continuer cette grande enquête dans l'inconscient historique masculin.
La chair interdite, alors de quelle chair s'agit-il? C'est très large.
Il s'agit du sexe de la femme. C'est l'histoire de la manière dont l'homme se rapporte à une des plus grandes énigmes de l'humanité, la source de sa naissance et de son plaisir. Comment l'homme envisage l'organe dont il tire son plaisir et d'où il naît? Eh bien, c'est véritablement une des plus grandes énigmes de l'histoire, à mon sens.
Eh bien, on va y passer du temps pour essayer de comprendre avec vous, Diane Ducret. Et puis, en fin d'émission, reportage sur un tout autre sujet, encore que nous irons dans un lieu atypique avec notre reporter, Alice Milo. Il s'agit d'un garage pour une clientèle féminine. Je vous vois sourire. Pour toutes celles qui ont une voiture, qui en ont marre de se faire traiter de blonde chez le garagiste pour la faire réparer. Il faut changer l'embrayage. Ah bon, vous êtes sûr? Eh bien voilà, le garage s'appelle Only Girls. Ça sera en fin d'émission. Diane Ducret, vous êtes tout de même remontée très très loin dans l'histoire de l'humanité pour comprendre ce que la femme inspirait comme peur, comme terreur et comme désir dans sa chair.
Je suis remontée au plus loin que l'on ait des traces écrites, jusqu'à Sumer, en passant par l'Égypte antique, la Grèce et jusqu'à nos jours, un petit peu sur l'ensemble des civilisations, avec toujours un fil rouge, la notion du plaisir féminin. Pourquoi les femmes qui jouissent sont-elles dangereuses? En quoi le plaisir féminin peut-il remettre en cause l'ordre social? Et pourquoi l'homme va avoir besoin très tôt dans l'histoire de poser sa main sur le sexe de la femme et de dire ceci est à moi, comme pour préserver finalement son contrôle, sa main mise sur finalement tout ce qui lui échappe parfois, à savoir la politique, la religion ou l'existence. Et très tôt, c'est vrai qu'on va remarquer l'un des premiers mythes grecs, c'est l'énigme de Tirésias. Il s'agit d'une très grande dispute entre Zeus, le dieu des dieux, et son épouse Héra. Tous deux se disputent pour savoir, dans l'acte intime, qui de l'homme ou de la femme reçoit le plus de plaisir. Zeus assure absolument que sur un gâteau de 10 parts, la femme en prend 9 et en laisse une maigre à l'homme. Et Héra, au contraire, dit que l'homme en garde 10 pour lui et ne laisse rien à la femme qui se donne quand même, finalement, par altruisme. Tous deux sont irréconciliables. Ils décident d'engager un devin pour les départager. Il s'appelle Tirésias et l'imprudent, le fou, il va donner raison à Zeus en disant que finalement, dans l'acte d'amour, c'est bien la femme qui a 9 parts sur 10 et n'en laissant qu'une seule à l'homme. Et pour se venger, Héra va le condamner à la nuit éternelle. Elle va le rendre aveugle. Mais cette dispute va véritablement déchirer le couple. Et c'est dès le début de l'Antiquité, finalement, pourquoi c'est si important de définir si la femme a plus de plaisir que l'homme ou non et de l'empêcher d'en avoir sans lui.
Alors vous avez croisé à la fois de la littérature, des textes de mythologie, des textes religieux bien sûr, hein, des traités médicaux, parce que on a finalement l'impression quand on vous lit, Diane Ducret, que le corps de la femme c'est mystère, c'est très lié à l'histoire de la médecine. Tant qu'on ne comprend pas comment fonctionne le corps humain, on craint en priorité celui des femmes.
Oui, complètement. Jusqu'à très très tard, environ au 14e, 15e siècle chez nous, on pense en Occident que la femme peut enfanter seule, même sans semence l'absence de l'homme. Et donc, on a très très peur qu'elle prenne du plaisir par elle-même ou sans l'homme, ou de ses comportements, parce que elle risquerait d'enfanter toute seule. Et en vérité, il va falloir attendre, c'est vrai, très tard pour avoir une bonne connaissance de l'anatomie féminine. Beaucoup s'interrogent le lien entre, en effet, la fécondité, le cycle, ou tout ce qui s'y passe finalement, vont attendre à peu près la Renaissance pour s'éclaircir dans l'esprit des hommes. Et alors, c'est le lieu de tous les mystères. Pour Platon, dans l'Antiquité grecque, toujours, il pense que l'utérus est un animal vivant qui se meut dans le corps de la femme, comme ça, et lorsqu'il n'a pas d'enfant, il remonte jusqu'aux poumons, jusqu'au cœur, jusqu'à la gorge. Il faut faire attention dans ces cas-là de ne pas ouvrir la bouche parce qu'il pourrait s'échapper. Et alors, on propose toutes sortes de fumigations pour lui faire regagner sa place, et on attribue tous les maux, toutes les maladies, finalement, à cet organe que l'on ne maîtrise pas. Et c'est encore jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. On va penser d'ailleurs que les femmes qui ont des menstruations, que les femmes qui ont des troubles nerveux, ou en tout cas tout ce qui peut être lié à leur cycle, eh bien ce sont des sorcières. Parce que finalement, le signe des sorcières, c'est d'avoir un entrejambe insatiable. On ne comprend pas très bien ce qui se passe là-bas et ça fait peur.
Et alors, pour les femmes qui ont un entrejambe insatiable, comme vous dites, et qui sont toujours prêtes à l'infidélité, parce que la femme est souvent perçue par nature malhonnête, du fait de ce sexe indomptable à dompter, il y a eu les ceintures de chasteté.
Oui, alors, la femme n'a pas toujours été perçue comme indomptable ou comme pécheresse ou fautive. Dans l'Antiquité, c'est l'inverse. Au contraire, à l'époque de Sumer, de Babylone, ou de l'Égypte antique, on vénère le sexe féminin et le désir féminin. Les femmes sont les garantes de la fertilité de la terre et il faudrait surtout pas les contrarier. Au contraire, il vaut mieux veiller à ce qu'elles soient satisfaites. Dans l'Inde classique ou dans la Chine classique, ainsi on va avoir beaucoup de traités érotiques qui vont nous apprendre, qui vont apprendre à l'homme sur surtout comment faire pour que la femme soit satisfaite, parce que sinon l'univers entier collapse sur lui-même et ça ne va pas du tout. Ensuite, c'est vrai qu'avec l'arrivée des monothéismes, ça va un petit peu changer. Malheureusement, la femme va être beaucoup plus tentatrice et les choses vont se compliquer jusqu'à finalement au XVIIIe siècle où va apparaître la ceinture de chasteté.
Ah oui.
Ah oui, en fait,
le siècle des Lumières n'a pas éclairé grand-chose là-dessus.
Moi, je pensais que c'était quelque chose du Moyen-Âge. Oui. Au départ, on l'a dans l'imaginaire. Eh bien non, c'est finalement à l'époque des Lumières, à l'époque du libertinage, que va se réaliser ce vieux fantasme masculin de pouvoir engrillager finalement.
Mais certaines ceintures de chasteté existaient auparavant, avant le 18e.
Non, il y a beaucoup de fausses en fait qui circulent. Il y en a une ou deux que l'on a prétendu appartenir à des grandes reines catholiques. C'est plutôt faux en fait, et on en trouve. Alors, on en a recensé pas plus de 3000 en France. Donc finalement, c'était un peu comme, vous savez, quand on menace les enfants du loup ou des voreurs pour qu'ils fassent leur devoir. On menace beaucoup les femmes à cette époque-là comme levier psychique de la ceinture de chasteté. Mais j'ai trouvé quand même dans quelques comptes rendus judiciaires où il y a une pauvre fille qui, qui porte plainte contre son mari qui lui en a fabriqué une. Alors il faut lire la description vraiment
qui la blesse.
Mais oui, bien évidemment, ça fait très mal. Il y a un tout petit espace avec des crocs à serrer. N'importe quel homme qui tient plus à son intimité, son plaisir, n'y s'aventurerait pas du tout. Mais c'est absolument horrible comme chose. Et en même temps, recouvert de très belles pierreries, avec beaucoup de velours, c'est fait avec beaucoup de soin et beaucoup de grâce. Mais ça reste un instrument de contrôle et de torture, dont se défendent les Français d'ailleurs. Ils disent que c'est les Italiens qui les ont inventés, parce que nous-mêmes, nous serions trop sûrs de nous. On n'aurait pas besoin de ça.
Ah justement, j'allais vous interroger sur la Révolution française. Qu'est-ce que ça a changé sur cette obsession du contrôle du sexe de la femme?
Ça a empiré les choses, figurez-vous. C'est ça qui est terrible. Ce que j'ai remarqué, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est que dans toute l'histoire, il y a un petit peu des vagues comme ça, quand tout fout le camp, un petit peu en tout cas en période de crise politique, économique ou religieuse, c'est-à-dire quand les socles profonds de la société s'effondrent, eh bien l'homme a besoin de resserrer le contrôle sur la femme, et notamment sur sa sexualité, pour pouvoir encore dire « je suis un homme, il y a quelque chose qui ne m'échappe pas, au moins c'est ça ». Et donc, la Révolution française, dans ce qu'elle va faire éclater complètement les critères à la fois de religion et de politique et de système social français, va finalement porter préjudice à la femme. Dans la Révolution française elle-même, d'abord, on va énormément critiquer la reine Marie-Antoinette sur son sexe. Il va y avoir beaucoup de parodies, beaucoup de dessins, de pièces de théâtre qui critiquent en effet véritablement son anatomie. Ça paraît fou aujourd'hui. Pourquoi ? Et d'un autre côté,
il y a une de ses secondes, je crois, qui est sauvagement violée, assassinée.
Oui, complètement.
À la Bastille.
Et des types vont arracher justement son sexe et vont le trimballer comme ça dans tout Paris et finalement l'amener jusqu'à la reine Marie-Antoinette pour lui mettre mettre sous le nez. Pourquoi ce besoin-là? Comme s'il fallait se venger contre la femme des malheurs que l'on a vécu.
Donc la Révolution française ensuite, et ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Bah tout oui, ça mais pas de aura... la femme.
Oui, bien d'accord. Droits de l'homme, droits d'une moitié c'est... de l'humanité.
Oui, parce que finalement, avec Napoléon, on a défait un roi, mais on a fait un empereur. Avec Napoléon, la femme appartient à l'homme, et c'est pire qu'avant. Finalement, ce qui va se passer, c'est que dès lors, là, on revient au point de vue médical. Les médecins vont véritablement chercher à justifier l'interdiction pour une femme de prendre du plaisir. Et la femme appartient à l'homme, elle ne doit donc prendre du plaisir qu'avec lui. Et si elle en a trop ou en dehors de lui, elle est hystérique.
Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside. Like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower.
Becky G chez 7 milliards de voisins. Avec vous, Diane Ducret, vous publiez La chair interdite, tant de siècles de douleur des femmes, d'oppression des femmes. Alors vous avez pris le parti à travers des lectures absolument immenses. Il y a une cinquantaine de pages de notes, rien que des notes de références bibliographiques à la fin de votre livre. C'est vrai que vous êtes historienne. Néanmoins, vous avez beaucoup lu pour ce livre, pour essayer de raconter l'oppression des femmes uniquement à travers leur corps et plus précisément à travers leur sexe. On parlait des ceintures de chasteté il y a quelques minutes. On est resté, c'est vrai, longtemps dans l'ignorance et les idées reçues, jusque très tard d'ailleurs, sur le corps des femmes, notamment à propos de l'accouchement et de la douleur.
Oui, c'est vrai. Il faut rappeler quand même, puisqu'on remontait le temps ensemble, on reste très longtemps dans l'ignorance, au 19e siècle tout de même, pour que les femmes ne puissent pas prendre de plaisir ou qu'elles ne soient pas hystériques, on va couper court, entre guillemets, à leur anatomie, c'est-à-dire qu'en France et dans toute l'Europe, on va exciser les femmes. Voilà ce qui est intéressant du point de vue historique. Alors, c'est un phénomène massif, mais qui n'est pas commun non plus. On peut le faire de manière préventive ou autre. Néanmoins,
qu'on entendait exactement par excision?
Alors, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des mutilations génitales, c'est certain. Il y a plusieurs choses contre les femmes qui se présentent avec des troubles nerveux. Alors, ça peut être même des maux de tête, maux de ventre, maux de dos, déchirures musculaires, ou justement prendre trop de plaisir. Alors, il y a d'abord le bromure, l'acide ensuite, sur les parties intimes, puis
Quel rapport
des camisoles
avec les maux de
force. Eh ben, on n'en sait rien, mais finalement, si, puisque cet appareil, ce sexe qui est incontrôlable, qui donne source à 1000 désirs et à 1000 furies, on appelle ça les fureurs utérines à cette époque-là. Eh bien, figurez-vous, si on coupe court à cet organe-là et donc à ce qui lui donne son excitabilité, eh ben, la femme se calmera et deviendra quelqu'un de normal et tout à fait fréquentable.
Donc, l'excision était une forme de médecine, en fait.
Est une forme de médecine au 19e siècle, en France, à Vienne, aux États-Unis.
Assez peu pratiquée, quand même.
Assez peu pratiquée. pratiquer. Néanmoins, j'ai retrouvé dans beaucoup de comptes rendus médicaux, les médecins la pratiquent quand même chaque semaine, plusieurs opérations par semaine, et ce pendant des années, jusqu'en 1920 aux États-Unis notamment. Moi, je trouve intéressant justement de balayer devant l'histoire de sa propre porte avant de regarder celle des autres. Mmh. C'est pas si loin finalement, 1920.
Pour revenir à l'accouchement, alors vous citez une psychanalyste américaine, Helen Deutsch, qui est une disciple de Freud, et qui dit... Et alors c'est intéressant parce que les femmes elles-mêmes participent aussi aux croyances, qui dit il faut accoucher dans la douleur. Sans douleur, une femme ne peut reconnaître son enfant, l'accueillir en son sein, en un mot, devenir mère. Et là on est à une époque contemporaine. Enfin,
c'est terrible.
C'est vrai que l'accouchement
sans douleur, alors il a une histoire vraiment incroyable, parce que moi j'étais fascinée de découvrir ce discours du pape Pie XII. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est dans les années 50, et il fait un discours à Rome devant 700 gynécologue, il est en train d'expliquer comment se passe un accouchement, il leur explique leur métier en gros, et il dit non, mais finalement dans les écritures, il est écrit que la femme doit accoucher dans la douleur, mais on va faire sans, c'est pas si obligé que ça, finalement, tout va bien se passer. Il faut attendre plus de 1950. Pourquoi c'est un discours incroyable? D'abord parce qu'en effet, ça va à l'encontre d'un millénaire, de plus d'un millénaire de religion, et surtout parce que l'accouchement sans douleur, c'est une découverte russe, soviétique. Et alors, s'il y a quelque chose que l'Église déteste, c'est vraiment le communisme, plus encore que les femmes libres, je crois. Et alors, vraiment, ça va être une guerre qui va reproduire tous les aspects de la guerre froide entre le monde communiste et le monde dit libre. Comment et pourquoi on va à ce moment-là accepter que les femmes ne soient pas obligées de souffrir et qu'on puisse les préparer à l'accouchement psychologiquement, en leur expliquant justement le fonctionnement de leur anatomie pour les aider à ce noble et grand travail qu'est de donner la vie. Jusqu'alors, c'est non seulement interdit, mais c'est même plutôt un signe positif, et c'est le signe de la bonne moralité. Parce que si la femme ne souffre pas en accouchant, alors elle n'aura plus conscience de ses actes et elle se donnera à n'importe qui. C'est quand même incroyable. Alors, il faut attendre un pape septuagénaire pour ça.
Vous citez évidemment Simone de Beauvoir, qui a quand même du bon sens à l'époque, hein, et qui dit mais non, le lien entre une mère et son enfant, c'est pas la douleur de l'accouchement, c'est ce qui se crée ensuite, évidemment.
Elle rajoute qu'en effet, une mère aura quand même son lot de douleurs de toute façon sur les 30 années à venir.
Après les deux guerres, alors que se passe-t-il finalement pour le corps des femmes?
Il se passe beaucoup de choses, comme au cours de l'histoire. Il se passe quelque chose d'assez paradoxal justement dans ces années 50. C'est d'ailleurs une photo des années 50 que j'ai choisi pour la couverture, parce que
c'est une femme qui est franchement partie de jambes en l'air, on a l'impression.
C'est une publicité French pour des collants dans les années 50. En effet, elle montre ses jambes en l'air, elle a une sorte de tutu, on ne voit rien, c'est tout à fait chaste et sobre, mais elle a un grand sourire, et c'est un véritable pied de nez à la morale de cette époque, qui fait que à la fois on va supprimer une partie de l'anatomie féminine des livres de médecine, parce que c'est trop indécent. Il y a toujours une interdiction faite de montrer les poils pubiens, de montrer l'anatomie féminine, ce qui va donner à Billy Wilder beaucoup d'idées érotiques avec Marilyn Monroe. Oui, absolument. Et en même temps, d'un autre côté, c'est là que quelqu'un va découvrir ce qu'on appelle le point G. Il s'appelle Ernst Graffenberg. C'est un juif allemand qui exerçait le métier de médecin pour dames dans l'Allemagne hitlérienne. Et alors, il n'a pas eu une très bonne idée. Il a l'idée d'aider les femmes à prendre du plaisir, d'aider celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants à en avoir, et celles qui ne veulent pas en avoir à ne pas concevoir. Et alors, avec la politique nataliste d'Hitler, qui veut que les femmes soient à la maison et fassent beaucoup d'enfants, et uniquement cela, bien, il se retrouve en prison. Il va fuir, on va le retrouver au Japon, à Hollywood, et il va arriver à New York. Et à plus de 70 ans, il va aider ses patientes. Il va les questionner patiemment, véritablement, pour les guider sur la voie de leur plaisir intime. Alors, il y a une anecdote vraiment, vraiment amusante, c'est qu'il a une de ses patientes qui n'arrive toujours pas à s'amuser avec sa chair, on va dire, et dont le mari, visiblement, est peut-être un petit peu maladroit, et il lui donne des exercices pratiques, dira-t-on, et puis au bout d'un moment, il finit par lui conseiller l'adultère, au moins pour essayer une fois, voir si c'est elle qui a un problème ou pas. Et il raconte qu'il reçoit il dormait profondément, il reçoit un coup de fil à 3h du matin avec juste une voix qui lui dit « Docteur, vous aviez raison », et qui raccroche. Et ce jour-là, il s'est dit qu'il faisait le plus beau métier du monde.
Donc dit, le fameux point G qui a été largement déconstruit ensuite par les scientifiques.
Mais qui fait toujours aujourd'hui débat, en tout cas, voilà pour montrer.
Qui alimente les fantasmes.
Oui.
Vous restez avec nous, Diane Ducret. Retour à la chair interdite et à tout ce que les femmes ont vécu à travers les âges. On parlera d'hygiène féminine, d'épilation et aussi de la guerre des jambes croisées. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes, juste après le flash. Restez avec nous. salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, en compagnie de Diane Ducret qui publie La chair interdite chez Albin Michel. Nous voguons de siècle en siècle, alors pas seulement autour des souffrances du corps des femmes et des mutilations et de ces questions sexuelles qui ont longtemps obnubilé les hommes, notamment le plaisir féminin. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes et de choses assez drôles dans votre livre, Diane Ducret. Il y a une grande question qui est quand même longtemps non résolue. Alors là, c'est un peu tabou dans certaines sociétés. C'est le sang menstruel des femmes. Et vous retracez littéralement l'épopée marketing, enfin industrielle, de l'invention des protections hygiéniques. Ça semble assez fou et c'est surtout assez méconnu.
C'est complètement méconnu. J'ai été assez surprise. C'est vrai que même en tant que femme, c'est pas forcément un sujet qui m'égaye ou me réjouit. J'imaginais vraiment pas, je vous assure, un jour en parler à la radio. Mais c'est tellement drôle. Il faut dire que depuis toujours, cette affection féminine est perçue comme quelque chose de maudit. D'abord au Moyen-Âge, on pense que certaines femmes en sont affublées, d'autres non, et que celles qui l'ont, c'est vraiment des femmes perdues ou vouées au plaisir et non pas des saintes, des femmes pures. On pense ensuite que cela fait tourner les récoltes, que cela réveille les animaux sauvages. Une femme qui les a ne doit rien toucher. Dans la tradition juive, la femme est impure pendant 7 jours, elle doit être bannie du camp. Elle est impure encore 7 jours après, et quiconque touche quelque objet qu'elle ait touché est lui aussi impur, et il faut qu'elle sacrifie des pigeons avant de pouvoir revenir dans le camp. Donc c'est vraiment tout un truc. Et puis imaginez s'il y a une pénurie de pigeons, comment on fait dans ces cas-là? Enfin, c'est des grandes questions quand même existentielles. Et alors tout ça va continuer jusqu'aux années 30 environ. On va se rendre compte que finalement il y a un marché avec ça, et qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Et alors là, d'un coup, ça va devenir quelque chose de totalement acceptable. La religion n'a plus rien à y dire. La médecine trouve ça finalement tout à fait normal, alors qu'avant on pensait que c'était du sang empoisonné. Ça devient tout à fait acceptable.
Alors, ce sont des hommes qui cherchent, oui, qui testent, qui mettent au point des systèmes.
Alors, les premières serviettes,
parfois rocambolesques.
Alors, ça va être complètement rocambolesque. Les premières serviettes, c'est dans les années 20, 30. Il y a beaucoup de publicité. C'est pour ça qu'on va inventer, tiens donc, la publicité féminine. Parce que pour réussir à vendre ces objets à des femmes qui sont habituées à faire ça depuis des centaines d'années, il faut leur vendre un mode de vie où elles ne sont plus obligées d'avoir des linges et d'être chez elles ou de rester alitées, mais où elles vont pouvoir faire du sport, où elles vont pouvoir avoir une vraie vie. Donc finalement, on va prendre le contre-pied de ce qu'on vendait aux femmes de jusqu'alors rester à la maison et n'aller pas chercher trop loin, mais soyez une femme active.
On est aux États-Unis là.
Absolument. Et ces deux laboratoires qui sont Johnson & Johnson et Kimberly Clark, qui sont les plus gros laboratoires américains, qui vont se faire la guerre. Mais alors une véritable guerre marketing à coups de pages de publicité de grand renfort. Et puis jusqu'à temps qu'il y en ait un qui ait quand même une idée, il va se dire, mais est-ce qu'on peut pas faire une serviette à l'intérieur? Finalement, parce que dans la guerre de celle qui sera la plus discrète...
À l'intérieur, alors, c'est-à-dire...
Eh ben finalement, le premier tampon.
Oui.
Alors, il y en a un qui a une super idée, c'est un des employés de Johnson & Johnson. Il fabrique quelque chose qui est vraiment assez volumineux, qui est bourre de coton, il fait des trous dedans, et il présente ça à son patron, qui s'étrangle véritablement, qui lui dit, mais espèce d'idiot, jamais j'irai mettre ça dans l'intimité d'une femme, mais t'es pas fou, détruis-moi ça, n'en parle à personne, parce qu'il y a quelques sombres idiots qui pourraient vraiment trouver ça crédible, et qu'ils vendraient, on ne sortirait plus jamais des tribunaux. Et bien finalement, c'est ce qui va se passer.
On pourrait porter plainte, c'est ça?
Mais tout le monde va porter plainte.
Il pourrait y avoir des infections dans le corps des femmes.
Mais pas que, surtout les religieux, surtout la morale, quelle drôle d'idée. Est-ce qu'elles vont aimer ça? Qu'est-ce que ça va leur faire?
Mon Dieu. Il faut bien préciser qu'aucune femme n'est associée à ce type de fabrication.
Absolument pas. Et c'est d'ailleurs très étonnant, c'est que le premier tampon va être fabriqué par un homme qui s'appelle Earl Haas et qui en a assez de voir sa femme justement chaque mois être très embarrassée, très gênée de devoir trouver des atours. Et il bricole quelque chose dans son garage avec une machine à coudre. Il achète de quoi compresser du coton, etc. Et il va finalement arriver à fabriquer comme cela ce qui va devenir la Tampax Company et qui va connaître un succès mondial. Mais à nouveau, tout ceci n'est qu'une histoire d'homme. Et on va se rendre compte, on va mettre plus de 10 ans à se rendre compte que la bonne idée pour que ça marche serait peut-être d'y associer une femme et de lui demander son avis. Mais il va falloir plus de 10 ans, voire 15 ans avant qu'on ait l'idée de le faire.
Et puis alors ça a été très compliqué aussi d'accepter la publicité pour ces produits-là au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale à peu près.
Alors justement, en fait, dans l'entre-deux-guerres, ça va être très difficile et ça va devenir fréquentable, tiens donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que il y a beaucoup d'usines qui ont de toute façon traité le coton pour fabriquer des pansements pour les blessés. Et puis il y a un gros surplus de coton et money is money. Il faut pas perdre l'argent, il faut pas fermer ses usines. Donc on va les recycler en protection pour dames et ça va devenir tout à fait acceptable de faire de la publicité pour la morale parfois recule devant l'argent.
Puisqu'on était aux États-Unis justement après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment il faut revenir sur le destin de Marilyn Monroe, immense star de cinéma américain, la femme, je dirais, la femme. Et vous revenez sur une scène qu'on connaît pas très bien, une scène où une journaliste vient l'interviewer. C'est une femme qui vient l'interviewer. Marilyn est, dans son peignoir, dans une intimité relative. Et là, il y a une scène assez gênante.
Elle va être assez surprise. Je l'ai moi-même été. C'est vrai que sur Marilyn, on pensait tout savoir. Et c'est marrant comme parfois, en déplaçant juste le curseur de l'histoire, on redécouvre complètement des événements. Marilyn, en effet, l'attend chez elle, donc en peignoir, en nuisette. Elle a une brosse à cheveux dans la main. Et elle lui demande, pendant que la journaliste s'installe et sort son micro, si elle peut se recoiffer. Elle se dit, l'interview est pas filmée, mais c'est Marilyn, elle est coquette. Et tout d'un coup, elle se retourne et elle la voit en train de se brosser les poils pubiens. Et alors là, elle est complètement médusée. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en effet, Marilyn avait joué comme ça de son intimité. Elle est la déesse du sexe à l'époque, dans cette Amérique. Et elle aimait dire qu'elle aimait être blonde de partout. Et donc, il va y avoir un véritable mythe autour de son intimité, finalement, qui devient quelque chose de presque à la fois tabou et complètement sacré, au point que le jour où elle doit se faire opérer pour l'appendicite, la première chose que va faire l'infirmière, c'est d'aller vérifier si Marilyn est bien blonde de partout. Donc ça fait bien rire tout le monde, ça fait rire l'hôpital, c'est un détail un peu scabreux, et elle va beaucoup moins rire quand elle va découvrir, moi c'est un détail qui m'a bouleversée et qui explique vraiment tout ce que c'est que d'être une femme. Marilyn a laissé une note sur son ventre au chirurgien, elle lui a écrit « Quoi qu'il se passe, s'il vous plaît, ne m'enlevez pas les ovaires ». Elle a en effet plus que tout peur d'être une femme vide et de ne pas pouvoir avoir d'enfant, de ne jamais pouvoir en donner à un homme. Et elle a laissé de sa main tremblante ce mot-là avant qu'on l'endorme. Et du coup, l'infirmière a plus du tout envie de rire.
Le pubis, les poils des femmes, on a beaucoup écrit sur le sujet et ça continue d'ailleurs de faire couler de l'encre. On va y revenir dans quelques instants avec vous, Diane Ducré.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins, mais entre nous là, entre les voisins.
7 milliards de voisins?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
7 milliards de voisins, avec vous Diane Ducré, vous n'avez pas renoncé effectivement à sonder la littérature, les textes, au tout type de documents, Diane Ducré, parce que vous êtes historienne.
J'ai renoncé devant rien.
Oui, sur les fameux poils. Ça peut sembler incongru, mais...
Oui, c'est une interview de mieux en mieux.
Ça raconte quoi sur les femmes?
Mais ça raconte beaucoup de choses. Moi aussi, c'était un sujet que je ne m'imaginais pas traiter, puisque somme toute, l'esthétique intime, c'est de l'ordre intime. Et justement, je suis contre le déballage actuel qui est fait, les modes qui soient faites actuellement et que l'on impose dans ce genre de domaine. Ce qui est privé est privé. Je ne suis pas sûre qu'il faille tout dévoiler, tout montrer en permanence. En revanche, il y a véritablement un acte politique. Et c'est ça la grande découverte. Dans l'Antiquité, par exemple, à Sumer ou en Égypte antique, un sexe de femme entièrement épilé, c'est le signe des esclaves. C'est le signe aussi d'une femme qui a trompé son mari. D'ailleurs, lorsqu'une femme a été surprise en cas d'adultère, on la tond entièrement et on la balade comme ça en chaîne dans la ville pour bien montrer quoi? Qu'elle n'est plus nubile, qu'elle n'est plus une femme mature, qu'elle est une petite fille et donc qu'elle est en esclavage dans la maison de son mari. C'est étonnant de voir comment finalement...
On pourrait peut-être expliquer ça à des adolescentes aujourd'hui, parce que les phénomènes de mode sont finalement mal connus.
On va le retrouver. Et comment il vient ce phénomène? À nouveau, on parlait tout à l'heure donc des protections féminines, c'est l'économie qui va avoir dicté ce que l'on pense être aujourd'hui comme un acte de libération du sexe, etc. L'épilation intégrale, absolument.
On a beaucoup dit hérité de la pornographie.
Oui, mais en fait, elle est créée par Hugh Hefner et son opposant, Bob Guccione, qui vont fonder tous les deux Playboy et Penthouse. gosses qui vont se faire la guerre du poil. Pourquoi ? Parce qu'il faut vendre du papier. Et ils veulent faire du porno chic à l'époque, en tout cas des femmes dénudées, sauf que ben, on n'a pas le droit de montrer des poils. C'est ce que disent les codes moralistes. Bon, ben, si on ne peut pas montrer de poils, eh ben, on va montrer des femmes sans poils. Et on va en montrer toujours plus.
Ça, c'était jusqu'à quand l'interdiction de montrer des poils aux États-Unis ?
Alors, c'est dans les années 50 jusqu'aux années 70. Et du coup, c'est à cette époque-là. Oui, c'est très tard, mais c'est uniquement pour vendre du papier dans l'escalade entre Penthouse et Playboy, finalement, que cette mode-là va s'imposer au fil des années. Et donc, ce qu'on prend aujourd'hui comme quelque chose de finalement subversif n'est finalement peut-être qu'un diktat économique de...
Et le fruit d'une censure.
Et le fruit d'une censure, absolument.
Aujourd'hui, on dit les femmes plus libres. Vous citez tout de même une singulière publicité en Inde pour un produit censé rajeunir le vagin des femmes.
Ça, c'est assez terrible.
Contemporain, hein. C'est dans l'Inde urbaine. Hein.
Oui, complètement. On dit les femmes plus libres. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on a la liberté de tout dire, peut-être aujourd'hui ou presque, qu'il n'en reste pas moins des dictats. On parlait justement des poils à la Renaissance. En France, en tout cas, dans tous les traités, alors je vous dis que les sources, en effet, sont pas banales pour aller rechercher ce genre de témoignages. C'était incroyable. Quelle variété, quelle ornementation j'ai retrouvé dans beaucoup de témoignages d'hommes de cour. Certaines femmes s'y mettaient des tresses, des rubis, des couronnes. Certains disent que c'est véritablement les joyaux de la couronne française qu'on y trouve. D'autres le portent en porc-épic, le décolorent, le frisent, lui mettent des rubans en guise de perruque. Ça a l'air assez joyeux,
c'était
finalement.
C'était vraiment l'univers bling-bling des pubis, hein. C'est bien ça.
Oui, c'est ça. C'est vrai. Vraiment assez bling bling, mais bon, pourquoi pas finalement. En tout cas, c'est joyeux. Et c'est là encore, pour ces femmes-là, à l'époque, un signe de libération politique, de dire que oui, elles aussi ont droit à l'amour et comptent s'y adonner de la manière qu'elles veulent. Elles ne sont pas des objets, justement, soumises à la volonté masculine. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, en revanche, pourrait-on dire que c'est une liberté ? Ce genre de crème que l'on trouve en Inde, c'est terrible, c'est un diktat. C'est-à-dire que le sexe de la femme ne doit pas vieillir, il ne doit pas avoir de couleur, il ne doit pas avoir d'odeur.
Et porter les traces des grossesses.
Oui, surtout pas. C'est-à-dire, on va lui demander ce qu'on a demandé à l'époque de l'établissement peut-être du christianisme, à celui de la Vierge Marie, c'est-à-dire que la femme parfaite n'a pas de sexe à cette époque-là. Elle n'a pas de menstrues, elle n'a pas de grossesse, elle est vierge avant et après la grossesse, tout le temps. Eh bien, c'est un peu finalement à cet idéal-là que l'on revient, par le biais toujours du marketing. Finalement, aujourd'hui, ce n'est peut-être plus la religion ou la politique le plus grand danger pour le sexe de la femme, mais peut-être bien sa commercialisation et le fait qu'il devienne un objet de consommation comme un autre auquel on va dicter des lois marketing. Et attention à cela, tout comportement peut être une liberté, mais dès lors qu'il est imposé, ça pose problème.
Des lois marketing et esthétiques tout de même assez obscures, hein, aujourd'hui, puisque de l'Antiquité à nos jours, vous balayez toutes ces idées qui ont jalonné le sexe des femmes aux États-Unis et ailleurs, et en Grande-Bretagne, depuis quelques années, la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie intime du sexe, connaît un réel succès. En quoi ça consiste ? D'où vient cette idée saugrenue ?
Il faut pas vieillir de nulle part, et
non,
surtout pas de l'endroit qui donne
des adolescentes plaisir. Aussi qui le pratiquent,
oui,
ou des
vrai,
très jeunes femmes.
Oui, c'est vrai, parce qu'ils devraient justement à trop vouloir peut-être montrer et hygiéniser pour, pourquoi pas, ne plus avoir peur, finalement, dans les films porno ou dans l'industrie voilà, pornographique, images ou films. Il y a des normes qui sont apparues, il faudrait ressembler plus à ci, plus à ça, et de la même manière que il faut maintenant avoir un 90B pour être désirable, on remarque absolument que c'est faux, les plus belles femmes du monde, les actrices ou pas, ont vraiment toutes sortes de morphologies, il faudrait être blonde, il faudrait avoir la peau comme ci ou comme ça, eh bien, en bas, il faut que ça soit pareil, et que finalement, on n'est pas désirable tant qu'on n'est pas dans la norme du désir. Et alors, qui fixe cette norme ? C'est là l'aliénation.
Vous achevez votre livre avec une note très positive et une plongée.
Oui, plus gaie quand même.
Oui, une plongée dans le sexe des femmes, mais alors par un hommage rendu à celles qui ont mené une drôle de guerre avec une arme assez inédite, l'abstinence. Hein,
oui.
La guerre des jambes croisées.
Et c'est la guerre des jambes croisées, c'est véritablement ça. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve ce phénomène vraiment dans toute l'histoire.
Oui. Et dans plusieurs pays.
Et dans beaucoup de pays. Celle qui l'a menée le plus récemment, c'est en 2003 au Libéria. C'est Legg Magbowie qui a bien sûr eu le prix Nobel de la paix face au dictateur Charles Taylor, qui dit quand même, j'ai tué ton père, j'ai tué ta mère, vote pour moi si tu veux la paix. Il faut du courage pour oser se dresser contre lui. Alors bien sûr, elle le dit elle-même, ce n'est pas uniquement cette guerre des jambes croisées qui a destitué le dictateur. Il y a bien sûr d'autres phénomènes conjoints et d'autres combattants.
Voilà, mais de dire
mais
à des
c'est
femmes,
une très grande
voilà,
part.
Dites à votre mari de se dresser contre le dictateur.
Ou c'est tout, ou il n'y aura pas de sexe à la maison. Alors elle raconte que celles des villes le vivent beaucoup mieux parce qu'il y a toujours un espace où aller, où se réfugier, on peut toujours sortir. et que les femmes des campagnes viennent au sitting lorsqu'elles occupent la place en face du palais présidentiel, arrivent avec des bleus, avec des coups, mais par la force, elles résistent et arrivent ainsi à infléchir la volonté des hommes. D'ailleurs, à ce propos, c'était une des grandes notes du livre. Ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est on a toujours cette idée de la femme africaine assez vue d'Occident, misérabilise dans la souffrance et les mutilations génitales ou autres. Bien sûr, ce sont des réalités et bien sûr, c'est tout aussi dur que partout ailleurs pour la femme africaine. Néanmoins, il y a quand même une autre vision au travers justement Leg McBowie, au travers d'autres
phénomènes de jambes croisées aussi qu'on retrouve
en
Colombie.
Oui, bien sûr,
notamment.
Mais d'autres pratiques qui vont au contraire mettre la femme et son anatomie en avant. Et là, par exemple, les jambes croisées, on les retrouve jusqu'en Colombie pour lutter contre les narcotrafiquants. Mmh. C'est amusant quand même.
Mais alors, dans le fond, vous aviez envie de dire quoi aux nouvelles générations de femmes, Diane Ducret, même si vous en faites partie déjà, parce que vous êtes assez jeune.
Justement, je suis née dans les années 80 et je m'imaginais que tout avait été fait. Je m'imaginais vraiment que l'égalité homme-femme existait, avec bien sûr nos différences. Je ne souhaite pas une égalité parfaite. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était faux, justement, avec ces phénomènes contemporains dont on parle, avec le fait que l'avortement fasse toujours défaut dans certains pays, fasse toujours polémique dans d'autres. Et j'ai eu envie tout simplement de montrer que dans toutes les époques et dans toutes les régions, être née femme, c'est à la fois une très grande chance et une grande malédiction, et qu'il vaut mieux connaître quelles sont les pressions, quelles sont les attentes que cet organe nous offre et auquel il nous condamne par son pouvoir de donner la vie notamment, et tout simplement pour gagner plus de liberté, oui, en avoir conscience et s'en débarrasser.
Et prendre de la hauteur avec l'histoire,
oui.
Et rester vigilant sur notre époque.
Ouais, rire avec vigilance, rire avec vigilance.
Diane Ducret, La chair interdite, c'est chez Albin Michel.
Et la lecture est tout à fait autorisée.
Oui, et ça se lit très très bien. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, si
avec
vous le voulez bien, puisque femme vous êtes, sur les femmes vous écrivez, reportage dans quelques instants dans un garage qui s'appelle Only Girls. Ça a le mérite d'être assez clair. Enfin, presque, c'est un lieu à découvrir. Ça sera juste après Just One Day.
Day to the sea and open up your heart and see how far you get to this breeze. And it's a big old world we're living now. And how mighty it can be. And all this time I pictured you.
we could go find things we'd never seen.
Question bagnole, on est presque à la parité. 46% des conducteurs de voitures sont des conductrices, des cibles faciles pour les garagistes sans scrupules qui profitent de l'ignorance, du désintérêt aussi parfois des femmes pour la mécanique auto et le cambouis. C'est en tout cas le constat de Laïd Dachi qui a ouvert en avril dernier un garage qui s'appelle Only Girls, rien que pour les filles, le premier garage féminin d'Île-de-France. Alice Milo, notre reporter, s'est rendue dans ce garage situé en banlieue parisienne, dans une zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise. Le patron a eu d'ailleurs beaucoup de mal à trouver une mécanicienne expérimentée pour travailler dans l'atelier, jusqu'à ce qu'il trouve Aurore, 25 ans. Elle est aujourd'hui la mascotte du garage Only Girls. Ce jour-là, elle accueille une cliente qui a un petit problème de couinement. On ne rit pas avec le vocabulaire.
Ça couine énormément. Quand la voiture, elle est froide, pas trop. Je roule 500 mètres, ça couine énormément.
Tout est bien, il y a juste ça. Alors, je vais vous faire voir. Donc ça, c'est des bielles. Là, vous voyez, ça bouge. Donc là, il y a un jeu. Ils sont usés à 50% déjà, à peu près. Avant de faire le parallélisme, il faudra changer les bielles.
Okay. Donc ici, vous emmenez carrément les clientes sous les voitures, en fait.
Tout à fait. Comme ça, elles voient directement le problème de la voiture. Elles voient qu'on ne leur ment pas, qu'il y a vraiment ça à changer ou pas. Et on leur trouve des termes appropriés, des explications simples. Puis étant une femme, je me mets aussi à leur place.
J'avais déjà fait ma vie dans Angers. Et puis du coup, bah voilà, c'est sympa d'être sous la voiture et d'observer ce qui va et ce qui va pas. Faut savoir un minimum quand même de la voiture. C'est comme quand on crève un pneu, si on sait pas le changer, bah... Moi, je vois ma mère, jamais on lui demandera de changer une roue. Je pense qu'il y a 20 ans en arrière, les gens, ils s'y intéressaient pas forcément plus. Quand on va dans un garage classique, l'homme, il a tendance à, voilà, à faire son truc, pas forcément nous expliquer et faire sa mécanique comme lui l'entend. Et voilà, on lui explique ce qui va pas, mais il va pas venir avec nous, nous montrer ce qui va changer ou quoi que ce soit. Alors que dans ce concept-là, on voit ce qu'elle va changer. Une fois que ça a été changé, elle nous montre la différence. J'aime bien voir ce qu'on fait sur ma voiture. Il y a souvent des garages qui font des choses et du coup, on voit pas ce qui a été changé. Ils changent des pièces qu'il n'y avait pas forcément besoin.
Vous avez le sentiment de vous faire arnaquer ?
Ouais, j'ai déjà ce sentiment-là, ouais.
Je suis Laïd Dachi, j'ai 38 ans, je suis le fondateur d'Only Girls ainsi que le gérant. C'est un monde qui a toujours été masculin, ça a toujours été l'homme en général qui emmenait ses véhicules. Aujourd'hui, le monde change, la société change. La plupart des femmes que l'on a sont des femmes qui n'ont pas d'hommes pour pouvoir s'occuper de leur véhicule. Elles s'y connaissent pas, donc elles viennent nous tester. La première fois, toujours pour nous tester, nous demander devis. Donc on monte le véhicule, on fait toujours un diagnostic gratuit pour les rassurer. Donc on leur montre ce qui se passe et on compare avec les devis. En général, on est beaucoup moins cher. Dès qu'un garagiste voit une femme, il se dit dans sa tête que elle s'y connaît pas. Donc souvent, ça arrive qu'il y en a qui en profitent. Il lui fera payer beaucoup plus en lui changeant d'autres pièces. Un homme, on hésite à deux fois avant d'essayer de vendre plus parce qu'on ne sait pas s'il s'y connaît ou pas.
Moi, j'ai fait le test, mes disques et plaquettes étaient nickel. J'ai été, on va dire, dans 5 garages et il n'y a eu qu'un garagiste qui m'a dit que mes disques et plaquettes étaient nickel. Tout le monde m'a sorti des factures pour le changement de ces disques et plaquettes alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être.
On a eu des devis de femmes qui venaient avec 970 euros de devis et chez nous, elles s'en sortaient à 120 euros. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne change que le strict nécessaire. Lorsqu'il y a un problème dans le véhicule, on montre la pièce à la cliente et le fait de voir sa pièce défectueuse, donc son soufflet ou les plaquettes usées, elle le voit de ses propres yeux ou son échappement percé, le fait qu'elle le voit au moment de payer sa facture, elle sait ce qu'elle paye et elle est beaucoup plus rassurée.
Alors ici, nous sommes dans la zone d'attente. L'attente chez le garagiste est très très longue et enfin il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, on a fait différents espaces, donc une cafétéria et espace beauté. On s'allonge ici, on fait tout ce qui est épilation faciale. Ensuite, on a un petit espace bar à ongles.
Et là-bas, c'est carrément un fauteuil de massage, non ?
Exactement, c'est on vous chouchoute vous et votre voiture. Et en plus, elles ont le plaisir de venir avec leurs enfants. Donc on a l'aire de jeu juste à côté de l'espace beauté.
Il y a même une piscine à boules.
Voilà, une piscine à boules. On a fait en sorte que ce soit plus une corvée de venir chez le garagiste, mais plutôt qu'à un moment de détente, que l'attente devient agréable.
Est-ce qu'on vous a pas taxé, à contrario, de garage sexiste ?
Surtout les féministes n'ont pas apprécié le concept. L'idée vient d'un homme, mais le concept a été monté par des femmes.
Prends un café.
Oui, bah, je vous laisse la carte. Je vous laisse regarder ce qu'on
propose. Ok.
Tenez.
Merci. Alors, vous êtes une cliente ?
Oui. C'est ma première fois chez Only Girls.
Vous êtes venue vous installer dans la petite cafétéria ?
Voilà, tout à fait. Je suis passée à
avant à l'épilation pour me faire plaisir.
Vous avez fait les sourcils, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. L'attente est plus sympa aussi de cette façon que dans la version salle d'attente avec le magazine Automoto et... Donc ça, c'est plus sympa, ouais. Le garage Only Girls accueille, ceci dit, aussi les hommes, hein, mais 80% de la clientèle, ce sont des femmes. Si vous habitez ou si vous travaillez dans le Val d'Oise, eh bien, vous pouvez vous renseigner sur onlygirls-auto.fr. Diane Ducré, vous conduisez des voitures, des motos?
Oui. Oui, absolument.
Donc, vous avez des expériences de garage et de garagiste.
Mais oui, et alors, en tant que femme blonde et née en Belgique, j'aime pas les clichés ni les sales blagues, mais c'est vrai, ce cliché sur les garagistes, messieurs, arrêtez, s'il vous plaît. On veut bien venir chez vous. On se fera pas les ongles, on se fera pas épiler les sourcils, promis, mais arrêtez.
Ah, mais vous êtes d'accord pour le garage pour femmes, le garage, disons, non sexiste?
Je suis d'accord pour plus me faire arnaquer, en tout cas. Après, on n'est pas forcément obligé, dès qu'on a 5 minutes d'attente, de se faire épiler quelque chose ou de se faire faire les ongles. C'est la
partie.
Voyez
qu'on revient toujours à ça.
C'est la partie peut-être en trop. Mais quel dommage qu'on soit obligé de se faire de la ségrégation soi-même, finalement, pour pas se faire arnaquer. Arrêtez, messieurs les garagistes. On veut venir chez vous. On vous aime bien.
Merci, Diane Ducré. Ça sera le mot de la fin de l'émission. Diane Ducré, merci d'être passée par le studio de 7 milliards de voisins. Et vous publiez La chair interdite chez Albin Michel. Une autre façon de revisiter l'histoire à travers le corps des femmes et plus spécifiquement le sexe des femmes et le regard des hommes sur le sexe des femmes. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission dans l'univers des entreprises sud-coréennes aux cadences infernales. Un ancien cadre dirigeant français raconte 10 ans chez les forcenés de l'efficacité au travail. Toutes vos questions, bien sûr, sur les réseaux sociaux. À demain, les voisins.